Tournez la page, votre émission littéraire animée par Mathieu Noirot.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur votre radio REC 103.7. Je reçois aujourd'hui Virginie Caillot.
Bonjour Monsieur Noirot.
Oui, bonjour Virginie.
Bonjour Monsieur Noirot.
Alors, Virginie Caillot est autrice de romans policiers. Elle a fait plusieurs ouvrages déjà depuis un certain temps, donc on va en parler du tout début. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire du polar ?
Eh bien, en fait, j'ai toujours voulu écrire depuis que je suis gamine. Ça peut faire cliché, mais ça peut paraître passer pour un cliché, mais c'est la réalité. Et au début, quand j'étais adolescente, j'ai été plutôt orientée vers la science-fiction. Je me passionnais surtout pour la science-fiction. J'ai écrit un roman de science-fiction qui n'était pas bon, qui n'a pas été accepté. Ensuite, je me suis passionnée pour les romans policiers. Au début de ma vie d'adulte, j'ai écrit un roman policier qui n'a pas été publié. Il est dans un tiroir, je le remanierai un jour pour le ressortir. Et puis, durant ma thèse, j'ai eu l'idée d'un autre roman policier qui pourrait mêler intrigue policière et surtout magie noire et le monde très cartésien des doctorants en biologie. Et donc j'ai écrit Manip diabolique à Poitiers qui a été publié en 2013. Et puis ensuite j'ai écrit quatre autres romans qui ont été publiés aux éditions Ex Aequo.
Oui, parce qu'on peut préciser que vous êtes dans le médical.
Je suis attachée de recherche clinique en psychiatrie.
Donc, pour les thèmes médicaux, c'est plus facile pour vous.
Voilà. Oui.
Voilà. Alors, le premier ouvrage, il est paru quand et à quelle époque ?
Donc, le premier, c'était en 2013 aux éditions, donc Geste Édition. Mm-hmm. Et ensuite, j'ai publié...
Alors, on va parler du tout premier. Le tout premier, c'était quoi ? C'était un polar ?
Oui, Manip diabolique à Poitiers.
D'accord, et qui racontait un petit peu, en synthèse.
En synthèse, c'est... Le personnage principal est une doctorante en biologie, mm-hmm. qui s'ennuie terriblement dans sa thèse qui n'avance pas. Et quand elle découvre qu'un ancien technicien de laboratoire non seulement était un sataniste amateur durant ses heures perdues, mais qu'en plus, il est en fuite après avoir assassiné ses parents. Oui. Elle se passionne pour l'affaire. Et en mettant un tout petit peu le doigt dans l'affaire pour se distraire, en fait, elle se fait happer le bras, elle se fait happer dans cette affaire. Et elle va devoir se battre pour survivre.
Donc, il a bien marché, ce livre, gentiment ?
Oh, gentiment, oui. Pour un premier roman publié par quelqu'un de complètement inconnu, c'est pas déshonorant.
Bien. Ensuite, le deuxième, alors. C'était l'année suivante ou il a fallu un petit peu plus de temps pour le faire ?
Alors, il m'a fallu un petit peu de temps. J'avais l'idée en tête, et je l'ai remanié plusieurs fois. Et il est donc paru en 2018 aux éditions Ex Aequo, et c'est Le Supplicieur.
Le Supplicieur, et là, ça raconte un petit peu, en synthèse aussi.
En synthèse, c'est un roman à énigmes, mais qui est construit comme un thriller, c'est-à-dire sur un rythme très rapide et avec beaucoup de morts.
Oui, d'accord.
Ah oui. Oui, il déménage, c'est bien. C'est l'histoire d'un vieux tueur à gages qui s'appelle Monsieur Gapelle, qui a l'air d'un petit vieillard tout à fait inoffensif, avec sa casquette, son petit chien. En fait, c'est une vraie machine à tuer. Oui. C'est mon roman préféré, parce que Monsieur Gapelle, c'est vraiment le meilleur antagoniste que j'ai créé. Mmh. Et il tue de façon particulièrement sadique des couples de lycéens à travers la France.
D'accord.
Et apparemment, ces affaires n'auraient aucun lien entre elles, sauf qu'un commissaire niortais va lui relier ces affaires, et malgré les directives de sa hiérarchie, essayer d'identifier, de retrouver M. Gapelle.
D'accord. Et ça, donc, c'était en
2018.
C'est le deuxième ouvrage, c'est ça ?
C'est le deuxième ouvrage. Édition Ex Aequo, collection rouge.
D'accord. Et ensuite, donc, il y a eu un troisième ouvrage. Dans la foulée ou un petit peu plus de temps encore ?
L'année suivante.
L'année suivante, bah, un livre par an alors presque.
Oui, maintenant. Parce que mon éditrice m'avait dit d'essayer des romans courts, parce que bon...
Oui, le premier était long, je crois, c'était combien, 300 pages?
Oui, et puis Le Supplicieur, on est là aussi sur plus de 300 pages,
oui.
Et mon éditrice m'a dit d'essayer un roman court. Oui. Bah, ça m'a dit, ça se vend bien, les petits...
150 pages, quoi.
Les petits polars, 120, oui,
150,
celui-là.
Ouais.
Donc oui, celui-là même, il fait
130.
Moins... Celui-là, il fait 60, une soixantaine de pages.
Ah oui, carrément.
L'héritage Van der Meer.
D'accord. Et ça, donc, c'est une histoire d'héritage qui tourne mal?
Alors, lui, il se passe dans le Marais Poitevin.
D'accord.
C'est le premier de la série avec le Major Calmin.
Ah, le héros principal.
Le héros principal, hein, Major Calmin, qui dirige la brigade de proximité de Frontenay-Rouen-Rouen. C'est un gendarme très à cheval sur le devoir. Et comme moi, il adore les animaux, il déteste les voyous.
Mmh.
Il est très attaché à la sécurité des habitants du Marais.
Mmh.
Et au respect de la loi. Et donc, bah, il enquête sur une série de cambriolages particulièrement abjects. Hein.
Mmh.
Et en même temps, il enquête sur l'accident qui a coûté la vie à un jeune homme de 15 ans.
Mmh.
Accident de la circulation. Donc, au lecteur d'essayer de deviner si les deux affaires peuvent être liées ou pas.
Voilà. Très bien. Et alors ensuite, le suivant. L'année suivante aussi?
Alors lui, 2021.
2021. Ah, oui.
Écrit en grande partie pendant le confinement.
Ah oui, bah oui, il y a eu du temps là.
Ouais.
Ouais.
Le lapin.
Toujours avec le même héros?
Oui, c'est la suite avec Calmin.
Ah d'accord.
Le lapin de ma fille.
Le lapin, c'est le titre?
Oui.
Attends, c'est original ça.
Oui.
Pourquoi le lapin de ma fille? On va le savoir.
Je ne peux pas le dire. Alors
d'accord,
en fait,
faut lire le livre alors.
Faut lire le livre. Là aussi, ça commence par ce qui semble être un cambriolage, sauf qu'il est très atypique, vu qu'il n'y a pas de vandalisme, il n'y a pas de cruauté volontaire sur les lieux. Et seulement dans une maison qui est remplie d'objets de valeur, il n'y a eu que deux vols. Le premier, c'est une collection de cartes postales anciennes qui, a priori, n'ont aucune valeur. Et la deuxième, c'est un petit lapin blanc, un petit lapin nain appelé Olaf, qui appartient à la fille des propriétaires de la maison. Et la gamine est actuellement en classe découverte pour la semaine. Et l'histoire est construite de ce fait un peu comme un compte à rebours.
Mm-hmm.
Parce que pendant que les gendarmes enquêtent, parce qu'il y a quand même eu cambriolage, il y a quand même eu la femme de ménage qui était dans le coma, elle a été assommée. Et pendant ce temps-là, le père de famille lui est complètement fou, il veut absolument retrouver le lapinou de sa fille avant qu'elle revienne de vacances. Et ça devient obsessionnel chez lui.
D'accord.
Et voilà. Donc l'histoire, comme ça, a l'air entre guillemets gentillette, mais en fait elle est très très perverse. Et c'est un roman dont on me dit qu'il est le meilleur. Enfin, ceux qui me le disent, ce sont des gens que je ne connais pas. Ils me l'ont dit dans des critiques sur Internet, je ne les ai pas payés pour le dire.
Mm-hmm.
Et parce qu'ils disent la fin de l'histoire, c'est un twist, on ne s'y attendait pas. C'est une vraie claque, ça remet en question tout ce qu'on croyait avoir compris.
Ah, donc c'est quand même assez fouillé, hein,
oui.
Mine de rien, plusieurs intrigues,
oui,
plusieurs histoires.
Oui, plusieurs intrigues, pour un roman qui est assez court, qui fait 11 euros, qui fait 105 pages.
Ouais.
Il a d'ailleurs été parmi les 5 finalistes au prix Mélusine il y a 2 ans.
Ah oui,
pour
même.
Un roman policier sur un prix généraliste, je trouve que c'est quand même très, très honorable.
Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais alors, c'est quand même fouillé, vos personnages, vos enquêtes, il y a quand même des recherches, il y a quand même des...
Oui,
il y a
oui.
quand même une sacrée imagination, mine de rien, là. Ça carbure, là-dedans.
Ah oui, ça se carbure bien.
Ça carbure bien.
Bah, c'est très agréable avec l'écriture de polar.
D'accord. Le dernier, alors, c'était quand?
Le dernier, il est sorti en 2023.
D'accord, l'année dernière.
Voilà, c'est La Crypte des Terras Morts.
La
crypte, pardon.
Oui, des Terras Morts.
Terras Morts, c'est le nom de la famille à qui appartient cette crypte funéraire.
D'accord, oula.
Ça commence comme un slasher.
Mm-hmm.
En fait, j'avais eu l'idée il y a de très très nombreuses années, pendant mes études, en regardant un documentaire sur les fantômes. Ça commence donc comme un slasher, parce qu'il y a dans un cimetière donc, à Magnier, il y a une crypte funéraire qui est, donc, de cette famille qui est soi-disant hantée.
Bon.
Sauf qu'il n'y a aucune histoire associée. On ne sait pas pourquoi, pas par qui. Enfin, elle a mauvaise réputation. Et le dernier descendant de la famille, qui est un jeune homme un peu très tatatlac, y amène ses copains de fac pour faire une espèce de chasse aux fantômes ludique, stupide, histoire de rigoler en se filmant. Et puis il y a deux personnes qui restent dehors, c'est-à-dire le jeune homme en question et puis le cantonnier qui lui désapprouve complètement ce qu'ils font.
Mmh.
Et évidemment, personne ne remonte. Et quand eux vont voir ce qu'il y a à voir à l'intérieur, c'est très, très, très sanglant. Il y a eu un massacre. Or, ils n'ont vu entrer personne, ils n'ont vu sortir personne. Donc, c'est un mystère de chambre close.
D'accord, voilà. Bon, c'est pas mal déjà. On va faire une petite pause musicale avec Claude François et sa chanson « Joue quelque chose de simple » et on se retrouve juste après.
Et la fenêtre s'est refermée sur le soleil. Les Les merles noirs ne sifflent plus sur la treille. Rien ne me fait vraiment plaisir. Je ne vois plus mon avenir. Je vis avec un souvenir. Et toi, l'ami qui vient ce soir, si tu veux bien rester quelques heures, me consoler, chasser le gris de ma vie. Quelque chose de simple, un peu sentimental. Quelque chose qui danse comme ces romances qui viennent et relancent les cœurs à la fin du bal. Joue quelque chose de simple, un peu sentimental, mais qui nous a émus. Un air qu'on chante au coin d'une rue d'une manière machinale. Oui, joue des choses romantiques. Au matin, lorsque la fatigue devient plus forte encore que le chagrin. Mais ça va déjà beaucoup mieux. Pour un instant, j'étais presque heureux. Alors si tu restes encore un peu, oui, juste un peu. On joue quelque chose de simple, un peu sentimental. Quelque chose qui danse comme ça. Et relance les cœurs à la fin du bal. Joue quelque chose de simple, un peu sentimental, mais qui nous a émus. Un air qu'on chante au coin d'une rue d'une manière machinale. Oui, joue des choses romantiques. Je veux sentir mon cœur se noyer dans la musique. Abandonner la lutte pendant quelques minutes. Laissez couler mes pleurs. Joue quelque chose de simple,
Tournez la page. Votre émission littéraire animée par Mathieu Noirot.
Eh oui, Claude François, si vous voulez investir sur Paris, c'est l'occasion puisque son appartement au 122 boulevard Estelman s'est mis en vente. Bref, je retrouve Virginie Caillot, autrice de Polar, et qui a donc écrit 4 romans policiers. Non, 5 romans policiers, pardon. Et maintenant, on va s'intéresser peut-être plus à la personne de l'auteur. D'abord, pourquoi rester dans le domaine policier ? C'est vraiment une envie, parce que certains auteurs sautent un petit peu. Il y en a qui font du roman policier, d'autres qui essayent autre chose, de la nouvelle, d'autres qui essayent de la science-fiction. D'autres... Tout à l'heure, vous avez parlé d'un roman de science-fiction.
Oui, ça, c'était entre mes 16 et mes 18 ans.
Oui, mais c'est peut-être... Non, c'est plus à l'ordre du jour. On reste dans le polar ?
Oui, on reste dans le polar, parce qu'il faut vraiment s'imprégner des codes du genre. Et j'ai quitté la lecture de la science-fiction depuis beaucoup trop longtemps pour m'y remettre.
Oui.
Et puis, dans le roman policier, ce que j'aime énormément, c'est la construction du plan. Pour moi, c'est aussi agréable d'écrire le plan que d'écrire l'histoire.
D'accord.
C'est un peu de l'architecture, d'une certaine manière.
Oui.
Par exemple, dans Le Lapin de ma fille, j'ai énormément soigné le plan pour le construire comme un soufflet. Je pourrais comparer ça un peu comme une toile d'araignée. C'est-à-dire, dans un polar, quand on touche à un fil, il y a tout le reste qui touche. Il faut faire très attention parce que ce qu'un personnage va dire, qui peut paraître anodin, ou une action qui va être commise, ou une scène en apparence innocente, naïve, peut avoir beaucoup d'importance pour la suite du récit ensuite. Ou pas. C'est au lecteur de voir à la fin où il s'est fait avoir. C'est pour ça qu'il y a des gens qui, après avoir terminé un polar, vont le relire pour voir où est-ce qu'ils ont été dupés. Voilà. Donc c'est ça qui est très agréable quand on écrit, c'est justement ce jeu d'indices valables ou pas valables, d'indices qui ont du sens ou pas, et qui vont permettre justement de créer le jeu de pistes. Ensuite, il y a évidemment la jeunesse des personnages, et créer ce type de personnage peut être parfois très, très, très cathartique, en fait.
Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que certains ne conçoivent pas le livre d'abord comme ceci, avec une architecture, mais des fois, c'est au vu de l'inspiration. Certains, c'est au fil des pages. Il n'y a pas l'angle de la page blanche, comme certains ont, des fois, mais c'est au fil des pages. Ils ont un récit qui viennent comme ça, etc., etc. Et d'autres, effectivement, vous êtes de ceux qui construisent d'abord une trame, une architecture du roman, avant de commencer à écrire l'histoire. Donc, c'est quand même tout un art.
Un art, disons que j'ai un de mes amis malheureusement décédé, regretté, Alain Bouchon, qui disait on est des artisans du polar régional. Voilà. Ouais. Donc un art, on est surtout des artisans. Dans notre coin, dans le polar, on fait nos petits romans policiers du mieux qu'on peut avec tout notre cœur.
Bah c'est bien, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de plumes. Alors il y en a qui s'essayent aussi parce qu'ils n'ont pas forcément de thèmes principaux. Il y a des auteurs qui font comme vous, donc qui ont un thème principal, ou le thème principal et qui reste à ça, et d'autres qui se cherchent un peu aussi, qui essayent, comme j'ai dit tout à l'heure, la nouvelle, la science-fiction, le polar, le roman historique, etc. C'est pas toujours évident de trouver son thème des fois. Mm-hmm. Ces livres-là, on les trouve encore en librairie, en grande surface, sans citer de nom bien sûr, mais on les trouve encore, ils sont disponibles.
Ah oui, tout à fait. Enfin, ils sont surtout
l'éditeur aussi peut-être.
L'éditeur, oui.
Chez l'éditeur, oui.
Bien sûr, sur le site des éditions Execo, mm-hmm. mais également dans toutes les... Alors, dans les grandes surfaces, ça dépend des grandes surfaces, si elles le commandent ou pas. Mm-hmm. Mais sinon, nous sommes sur absolument toutes les plateformes numériques.
Ah, mais c'est bien ça.
Mmh. On est référencé absolument partout.
Bah, c'est bien. Donc là, est-ce que vous avez une petite idée de celui qui a le mieux marché de ces 5 ouvrages jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que vous avez, la maison d'édition vous l'a dit, ou vous avez dit, celui-là, c'est vraiment le best-seller, enfin, pas le best-seller, mais le champion de ceux que vous avez écrits ou pas, non?
Ah, ça, je ne sais pas, j'ai pas vraiment d'idée.
Ils vous l'ont pas dit, non?
Non. J'ai pas trop d'idées, je dirais, j'aurais tendance à penser Le Lapin de ma fille.
Ouais.
Le titre est accrocheur. La couverture, c'est Madame Schwalm, l'éditrice, la gérante et la fondatrice des Execo, qui l'avait choisie. La couverture est très, très attractive.
Oui, ça c'est important, hein, parce qu'il faut savoir que la première et quatrième de couve, c'est 50% de la vente, hein, déjà.
Oui, tout à fait.
C'est les gens regardent devant et derrière. Donc voilà. Et donc, les prix sont abordables, c'est des prix accessibles.
Oui, tout à fait.
Vous avez dit tout à l'heure, 11 euros, 15 euros, 20 euros.
11 euros pour le lapin.
Bon, la moyenne, on va faire le détail.
L'héritage Vandermeer, c'est 8 euros.
Ah, bah voilà, les prix, là.
Le plus cher, c'est évidemment Le Supplicieur, parce que c'est le plus épais, et il est à 25.
Voilà. Bon, ça reste encore abordable.
Oui.
Voilà, très bien. C'est le plaisir aussi, quand on fait un livre, c'est les petites dédicaces des auteurs. Alors là, vous avez des lecteurs. Ah oui, c'est ça que je voulais vous demander. Vous remarquez dans les salons et autres que vous avez une catégorie de lecteurs précis qui vous suivent?
Je commence à avoir un petit lectorat, oui. Ah. Depuis le temps que je fais des salons.
Tous les âges?
Tous les âges. Tous les âges. J'ai pas vraiment un lectorat dans les 20 ans.
Hein. Oui, non, mais ça, on est d'accord.
Voilà. C'est plus des gens de mon âge, mais...
Autant dire encore des jeunes.
Jeunes, non, pas de mon point de vue.
Mais... Non, mais c'est vrai que c'est pas les... C'est à partir, oui, les 20, 30 ans, quoi. 30,
ouais, plutôt à quarantaine.
Ouais. Ah, il y en a quand même, on constate quand même que ça commence quand même.
Oui, mais des jeunes de 20 ans.
De 20 ans
qui viendraient me voir en me disant oh là là, je vous prends le dernier parce que j'ai aimé les autres, ça, j'ai pas encore.
Non, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est si vous avez déjà, maintenant que vous avez quand même quelques petits ouvrages de sortie, vous faites des salons, vous faites des dédicaces, etc. C'est important de savoir si vous aviez quand même déjà des lecteurs qui vous suivent et qui attendent le suivant.
Oui.
Le suivant. Bien. Eh bien, on va faire une autre petite pause musicale avec le dernier duo de Françoise Hardy et Jacques Dutronc. Je vous laisse écouter puisque vous partez en voyage.
Il la remercie de l'avoir accompagné à la gare.
Vous parlez sérieusement ou vous vous moquez de moi?
Ben non, il se moque pas d'elle, mais regardez, tous ces journaux, ces cigares, tout ça.
C'est... Ah, je manque d'originalité, c'est vrai. Savez-vous que nous nous séparons pour la première fois?
Oui, mais enfin, c'est pas très long. Et puis, il part que 15 jours.
Attendez un petit peu. Dois-je comprendre que vous allez passer ces 15 horribles jours sans compter les heures? Puisque vous partez en voyage...
Puisque nous nous quittons ce soir, mon cœur fait son apprentissage.
Je veux sourire avec courage. Vous avez posé vos bagages. Marche avant côté du couloir.
Et pour les grands signaux d'usage, mon grand mouchoir. Dans un instant, le train démarre.
Je resterai seul sur le quai. Et vous me verrez dans la gare.
Me dire adieu là-bas avec votre bouquet.
Promettez-moi d'être bien sage. Pensez à moi tous les jours
et retournez dans notre cage pour mieux attendre mon retour.
Eh bien voilà, vous avez une place tout à fait tranquille, sans voisine, sans vis-à-vis, personne pour vous déranger.
Ah, il espère que c'est un fumeur.
Oh, décidément, vous êtes incorrigible. Et moi qui pensais qu'un peu d'isolement vous aiderait à vous détendre.
Ah, et puis quoi encore? Oh là.
Puisque vous partez en voyage,
vous m'avez promis, mon chéri,
de vous écrire 14 pages
tous les matins ou davantage. Pour que je vois votre visage.
Baissez la vitre, je vous prie.
C'est affreux, je perds tout courage.
Et moi je déteste Paris.
Le contrôleur crie en voiture. L'enfoiré, il sait pourtant bien.
Je dois rester, mais je jure que s'il me crie encore une fois, moi je viens.
J'ai mon amour pour ce bagage. Et tout le reste, on s'en fout.
Puisque vous partez en voyage,
mon chéri, je pars avec vous.
Tournez la page, votre émission littéraire
sur REC 103.7,
animée par Mathieu Noiraud.
Et oui, nous allons vers la fin de l'émission avec Virginie Caillot, auteure de romans policiers. Alors, de polar, comme on dit. Alors, est-ce qu'il y a des dédicaces de prévues pour cette fin d'année ou des salons? Maintenant, les salons, ça va être un peu court, mais des dédicaces, non, il n'y a pas de dédicaces de prévues pour cette fin d'année 2024?
Pour cette fin d'année 2024, non.
Oui.
Le prochain salon auquel je participerai, ce oui. sera en janvier à
Chauvigny. Le 19 voilà. janvier,
le 19
salle
janvier.
Charles Trenet, donc Théâtre Charles Trenet, on dit d'ailleurs.
Oui.
Qui est donc le salon des auteurs régionaux, 11e édition, oui, organisé par Pictabook, en partenariat avec le Pictavi Éditeur et la ville de Chauvigny, où il y a à peu près une cinquantaine d'exposants, enfin de stands, ce qui fait 80-90 auteurs, éditeurs et artisans du livre. Voilà, pas d'autres salons prévus après ou dédicaces ?
J'ai fait des demandes.
D'accord.
Je verrai si elles seront acceptées ou pas.
D'accord, ok. Donc pour l'instant, salon. Dans le polar, vous n'avez pas idée de faire... alors c'est une petite question parce qu'il y a aussi des salons jeunesse. De faire un polar adressé aux jeunes publics, non ? Un peu plus édulcoré, bien évidemment, mais non, c'est pas une idée qui... Parce que certains auteurs, maintenant, se tournent un petit peu vers aussi la jeunesse, puisque c'est le début. La jeunesse, c'est... Dès qu'ils commencent à lire le plus tôt possible, c'est leur donner envie de lire, c'est important.
Écrire pour les jeunes,
non,
c'est un métier à part entière.
Oui, c'est-à-dire non, mais des fois...
On peut pas s'improviser quand on est habitué à écrire pour des adultes.
Je suis d'accord.
On peut pas s'improviser. Auteur pour jeunesse, d'autant que des jeunes, j'en ai pas dans mon entourage.
Ouais. Mais ça vous a jamais tenté ?
Bah, si. Ça me tente très bien. Mais le problème, c'est que je n'ai absolument pas les codes.
Voilà.
Je ne sais pas comment m'adresser à eux. Je connais pas bien leur langage. Les plus jeunes de mes collègues ont une vingtaine d'années. Donc, vous voyez, c'est un peu éloigné des adolescents. Donc, je pense que je raterai ma cible.
Alors, le prochain, on peut le dire aussi, puisqu'on fait un petit peu l'agenda, le prochain salon jeunesse, il aura lieu le 30 mars 2025 à Tercé, salle du Friola, organisé par le Recumble Édition, en partenariat avec l'hôpital Méditeur et la ville de Tercé, de 0 à ado, donc c'est quand même assez large. Voilà, c'est un petit salon en campagne, puisqu'il faut amener la culture, la promotion du livre et autres en campagne. Alors, maintenant, on va parler des prochains futurs. Est-ce qu'il y a un prochain roman en préparation ?
En chantier, oui.
Ah.
Je suis arrivée au 5e chapitre.
Alors, il y a le titre, on peut dire le titre ou pas encore ?
Le titre, j'hésite entre deux.
Ah.
Donc, j'hésite entre La mort au bout du tunnel
oui.
et Le mort de la Venise verte.
Ah, ça se passe au Marais Poitevin ?
Toujours, c'est la suite des aventures du Major Calmin.
Ah d'accord, il n'y a pas d'histoire de tome 1 ou tome 2, c'est une histoire totalement différente.
C'est une histoire totalement différente.
D'accord.
Donc, même s'il vaut mieux lire La Crypte après avoir lu Le Lapin de ma fille.
D'accord. Mais... Et ça sera un petit aussi, comme dans les 100 pages, 120 pages ou un peu plus ?
Je pense qu'il va aller entre 150 et 200 pages, celui-là. Je verrai quand il sera terminé, si je dois réduire un peu. Je verrai. Pour l'instant, j'en suis vraiment sur le premier jet. J'avance. Et puis, quand j'aurai vraiment terminé 1000 mots fins, alors je le reprendrai entièrement. Je le ferai lire à des amis pour avoir leurs avis. Et je finaliserai.
Prévu pour 2025 ou 2026 ?
Ah ben j'espère 2025.
Pour la rentrée peut-être 2025 ?
Oui, pour septembre 2025, ce serait bien.
Ça serait bien. Toujours au même, on va pas dire le nom de l'édition, mais toujours au même édition, même éditeur ?
Toujours le même éditeur, la même collection rouge.
La collection rouge ?
Oui.
C'est ça, oui, rouge comme le sang, bien évidemment.
Mais tout à fait.
Voilà. Et donc, on continue sur cette lancée policière qui est la vôtre. Vous n'avez pas fait de salon du spécial polar, des choses comme ça, jusqu'à maintenant ?
Il n'y
en a pas beaucoup.
Si, j'en ai fait un. J'en avais fait une à... comment ça s'appelle ? Loche, voilà, pardon, le salon du polar de Loche,
oui.
il y a quelques années,
mmh.
et puis organisé par le Lions Club.
Mmh.
Et puis, j'ai également fait deux éditions de Noir d'Issée, et donc de Polar Noir d'Issée, et j'espère faire l'an prochain, c'est logique, si à ce moment-là, mon roman est sorti.
D'accord, ok. Oui, là, en plus, c'est sur une semaine, parce qu'ils associent pas mal de choses, et il y a le salon du livre le week-end.
Oui.
Mais il n'y en a pas tant que ça, hein, des salons du polar.
Dans la région, non. Il y a Cognac, sinon. Mais là, je pense que c'est un peu au-dessus de ma portée.
Bien. Eh bien, écoutez, l'émission est terminée. Merci, Virginie Caillou, de nous avoir accompagnés et parlé de vos ouvrages. Cette émission, c'est le but. Hein. Un auteur, une autrice vient me parler de ses ouvrages. Rendez-vous l'année prochaine, alors.
Rendez-vous l'année prochaine, Monsieur Noirot, et je vous remercie très sincèrement de m'avoir invité à votre émission.
Mais c'est tout à fait normal. Bonne fin de journée à tous.
Tournez la page. Votre émission littéraire, animée par Mathieu Noirot. Tournez la page, votre émission littéraire
sur REC 103.7,
animée par Mathieu Noiraud.